Lundi 11 décembre déjà 2017, à quelques temps de la fête de Noël en fait. Hein? Bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, Claude Blas est mon nom. Bien heureux encore une fois de vous retrouver ce matin, naturellement entouré des meilleurs chercheurs d'articles de la semaine, pour moi en tout cas. Je suis ici seulement le lundi, donc on commence tout ça avec des sujets très intéressants avec Franceline Nieuvard. Comment allez-vous?
Oui, ça va bien, ça va mieux cette semaine. Oui. Et donc je vous propose deux réflexions tirées du journal L'Itinéraire de novembre 2000, du 15 novembre 2017. La première, c'est sur le rôle de la police. Dans les temps actuels, on en parle quand même pas mal. Il s'intitule « Un enjeu social plus qu'une question de sécurité ». Et le deuxième, « Les jeunes contre les vieux » par Yannick Marcil, économiste indépendant.
D'accord.
Et le premier est par Stéphane Berthomé, qui est un ancien policier et qui est spécialiste des questions judiciaires.
Parfait.
Il intervient beaucoup sur les radios.
Merci, Franceline. Bon matin, Monsieur Roger Roy.
Oui, bonjour Claude, ça va?
Oui, très bien,
oui,
merci.
Bon, moi je vais vous parler de l'appel du large, si vous avez envie de naviguer, si vous, l'océan vous appelle, mais que vous êtes allergique aux croisières. Il y a des solutions.
Ah, tant mieux. Bien hâte d'entendre ça. Et notre troubadour du matin, Serge Hamelin.
Oui, alors écoutez, vous voulez donner un cadeau de Noël, vous pensez à une bouteille de vin, mais... pourquoi pas une bouteille d'huile d'olive? Il y en a tellement de belles, et je vais vous dire, celles qui, en plus d'être belles, sont bonnes. Oui, et je vais vous parler, vous pouvez donner aussi du savon pour laver, mais ça, c'est plus commun un petit peu. Alors, je vais vous parler des bons savons pour laver le linge.
Pour laver le linge.
Lesquels sont bons?
Et quels sentent bons?
Sentent bons.
Ah, parfait. On vous revient dans quelques instants avec Franceline. Alors ça y est, on débute le tout avec un premier sujet,
oui.
Franceline.
Oui, qui est donc sur le rôle de la police. Mm-hmm. L'activité des corps policiers et l'application de la loi ne cesseront jamais de diviser juristes, sociologues, défenseurs des droits et libertés et citoyens qui ont eu un jour affaire à la police. Pour certains même, dans l'idéal, l'existence de la police ne devrait pas être nécessaire. Je crois cependant que ce soit dans l'exercice des missions de sécurité publique ou pour les enquêtes criminelles, nous aurons toujours besoin de la police, mais de quelle police? Dit Stéphane Berthomé, donc, qui est le rédacteur en chef invité du journal L'Itinéraire, et c'est écrit donc dans L'Itinéraire du 15 novembre 2017. Il y a quelques mois, j'ai été frappé par la simplicité et la justesse d'une citation de la professeure Anna Muniz de l'Université de Californie, qui résumait cette interrogation en une phrase. L'armée est supposée défendre le territoire contre des ennemis extérieurs, ce qui n'est pas la mission de la police, qui, elle, n'est pas supposée voir la population comme un ennemi extérieur. J'ajouterai que la police n'est pas non plus supposée voir les citoyens comme un potentiel ennemi intérieur. On touche ici, il me semble, au cœur de la question que l'on ne se pose pas assez souvent au sujet de l'activité des corps policiers, que l'on interroge plus sur des questions de recrutement, de moyens ou de structure qu'au niveau de la philosophie même de l'action policière. Dans le domaine de la sécurité publique, j'ai constaté, en analysant les interventions policières qui avaient mal tourné, comme celles impliquant Mario Hamel et Patrick Limoges, Samy Yatim, Pierre Coriolan ou encore Alain Magloire, pour ne nommer que celles-là, que c'était le modèle même de l'intervention policière qui conduisait, dans des circonstances exceptionnelles certes, mais gravissimes, à ce que la situation se termine de façon mortelle pour des citoyens. Dans la plupart des cas de citoyens tués par la police, les policiers ont suivi les procédures et ont appliqué ce qui leur avait été enseigné à l'école de police. Le modèle d'emploi de la force a été respecté, disent les experts, lors des enquêtes qui ont suivi certains de ces décès. Et je me souviens encore du titre d'un journal qui qualifiait la mort de Patrick Limoges, un passant mortellement atteint par une balle tirée lors d'une intervention policière, donc d'incroyable malchance. Mais en devenant de plus en plus encadré et organisé autour de techniques destinées à garder la maîtrise de la situation, le modèle d'intervention des corps policiers semble s'être insidieusement éloigné de son objectif premier, qui était de résoudre une situation conflictuelle sans que le policier ni qu'un citoyen ne soit blessé. En créant un modèle d'intervention basé sur un rapport de force de plus en plus direct, on prend ainsi le risque de placer le policier dans la position de privilégier sa sécurité et celle de ses collègues au détriment de celle du citoyen. Or, l'objectif d'une intervention policière n'est pas de créer une source de danger pour le citoyen, mais de le protéger aussi de lui-même si besoin, et dans la mesure du possible, même s'il représente une source de danger potentiel. Dans le domaine des enquêtes criminelles, les techniques d'interrogatoire sont essentiellement axées sur les moyens d'obtenir des aveux et les techniques d'enquête qui conduisent les policiers à participer ou organiser des actes répréhensibles pour obtenir des mises en cause de certains suspects, pose aussi des questions sur la finalité de l'action policière. La méthode d'investigation, dite Mr. Big, destinée à gagner la confiance d'un suspect par la création d'un réseau criminel fictif, pousse loin les limites de ce qu'un corps policier peut légalement faire, tout en respectant le lien de confiance minimal entre le citoyen et le système de justice. Les moyens mis en œuvre au quotidien par les différents corps policiers du pays ne sont que la partie émergée de l'iceberg policier. Ils en sont la part visible et matérielle et nous ramènent à cette question centrale. Jusqu'où un policier doit-il considérer un suspect ou un manifestant comme un ennemi de l'intérieur? C'est en répondant à cette question bien plus large et plus complexe que celle de telle ou telle méthode policière que nous pourrions faire le choix du modèle de police que nous souhaitons voir demeurer au sein de nos sociétés. Mmh. Voilà, donc éditorial de Stéphane Berthomé dans le journal L'Itinéraire à propos du rôle de la police, un enjeu social plus qu'une question de sécurité.
Effectivement, tout voilà. À fait. Ouais. Il faut comprendre que les policiers, dans les derniers temps, dans les dernières années, en fait, font une approche beaucoup plus douce maintenant. Donc, c'est ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, on ne sait pas. Mmh. On vous revient dans quelques instants avec Roger. Alors, Roger va nous amener vers l'appel du large.
Oui, c'est ça. C'est un texte que je retrouve dans l'édition de l'actualité du mois de décembre. Oui. Mm-hmm. Et celui qu'il a écrit, c'est Guillaume Roy. Et il a un peu de don de voyant, je crois, parce qu'il commence son texte de façon suivante. J'ai un témoin ici à côté de moi. Je n'invente rien.
Parfait.
Dehors, la première tempête de l'hiver est à la veille de s'abattre sur le Québec.
Ah.
Les promotions de voyage dans le sud ont commencé à envahir les écrans. Dans le lot, une proposition pour le moins différente, la co-navigation, une sorte d'Airbnb où le propriétaire ne vous loue pas son bateau, mais vous emmène naviguer. Sur le web, de plus en plus de sites mettent en relation des propriétaires disposés à prendre à bord des équipiers d'un jour, d'une semaine ou d'une traversée. Dans bien des cas, il suffit de partager les tâches. Les coûts de l'essence et des repas soient entre 500 et 1500 $. Certains exigent plutôt des frais se situant entre 10 et 30 $ par jour. Une nouvelle déclinaison de l'économie du partage appelée co-navigation, version moderne des traditionnels babillards des ports de plaisance. Jumeler des voyageurs et des propriétaires de voiliers, mais aussi de yachts et de péniches, c'est ce que fait Antoine Penaud depuis 2010. Cet ancien notaire de 37 ans qui habite Paris, ou Athènes, selon les saisons, a créé Vogue avec moi, une plateforme de co-navigation en français. Pour une journée dans les Caraïbes, sur la Méditerranée ou le Saint-Laurent, ou pour traverser l'océan, tout le monde y trouve son compte parmi les 49 000 membres, dont 8 300 propriétaires de bateaux. On y recense plus de 50 offres d'embarquement pour traverser l'Atlantique de l'Europe vers les Caraïbes pendant la saison des alizés de septembre à décembre, et de 20 à 30 propositions en sens inverse au printemps. Les capitaines sont toujours à la recherche d'équipiers pour sortir en mer le plus souvent possible, dit Antoine Penaud. C'est le cas de Marc Villeneuve, conseiller financier de 59 ans de Québec. En 2015, il a reçu un couple de Français sur son voilier pendant une semaine, puis en 2016, c'était à son tour d'aller naviguer avec eux à bord de leur voilier sur le lac Léman, à la frontière de la Suisse et de la France. C'est le contact humain qui a rendu le voyage si intéressant, dit-il. Pour promouvoir la popularité de la co-navigation au Québec, Samuel Denis Dorton, informaticien de Gatineau, a créé en 2014 le site Capitaine Capitaine, qui comprend le CV marin des navigateurs. « Je voulais simplifier le partage d'informations sur leur expérience », explique-t-il. « Pour l'instant, sur les 225 membres du site, plus de 80% viennent du Québec. » L'essor de tels sites web spécialisés facilite le jumelage, mais le bon vieux babillard et le bar du port de plaisance, dans un endroit très fréquenté, demeurent d'excellents lieux pour trouver une place à bord d'un bateau. C'est la technique sur laquelle compte Guillaume Baudouin, 35 ans, un cinéaste de Montréal, pour poursuivre son voyage au-delà de la Polynésie et réaliser son projet de documentaire « Across the Salty Roads ». « Mon horaire dépend des occasions qui se présentent à moi », dit-il. Documentariste, il voulait filmer les façons dont les populations s'adaptent au changement climatique en partant sur le pouce à travers l'océan Pacifique. Avec un minimum d'expérience en voile, il a d'abord trouvé un voilier en visitant crewbay.com qui devait le conduire du Panama jusqu'à l'île de Pâques, mais le départ a été retardé car le bateau était endommagé. Il s'est donc rendu dans un port du Panama où il a trouvé la perle rare, un catamaran de luxe de 19 mètres, 62 pieds, je traduis pour moi, qui l'a conduit jusqu'aux îles Marquises. Il n'y a rien eu à payer, sinon partager les tâches comme faire la vigie la nuit, préparer la bouffe et faire le ménage, ajoute l'aventurier. C'est au fil des rencontres en mer et dans les îles que le Montréalais a connu d'autres partenaires de voile qui lui ont permis de se rendre à Tonga, au Fidji, puis à Vanuatu. Un conseil de l'auteur du texte, Guillaume Roy, avant de vous embarquer, il faut s'assurer d'avoir le pied marin. Ouais. Oui. Car une traversée de l'océan tourne vite à la catastrophe si on a le mal de mer. Autre conseil d'Antoine Penaud de Voyage avec moi, faites d'abord une petite sortie avec le capitaine pour vérifier ses connaissances techniques. Ça aussi, c'est un bon conseil. C'est aussi le meilleur moyen de voir si le courant passe. Le voyage est toujours long quand le plaisir n'y est pas. Mais ce n'est pas tout. Si vous voulez pas, vous pouvez aussi naviguer sur des cargos. Ah. Alors là, il faut être un peu... avoir l'esprit monastique, parce que, alors je vous explique. Des agences de voyage spécialisées, principalement sur le web, offrent des croisières sur des porte-conteneurs. Sylvestre Dupont, un Français de 35 ans qui vit aux Pays-Bas, fait le tour du monde de cette façon en 2013 et 2014. L'entrepreneur web dit s'être senti comme un explorateur à bord des différents navires sur lesquels il est monté pour se rendre de Carthagène jusqu'en Nouvelle-Zélande, en passant par le canal de Panama, puis de Kuala Lumpur à Southampton au Royaume-Uni, en empruntant le canal de Suez. Cette aventure ne convient pas à tous, précise toutefois Sylvestre Dupont. Il faut être flexible, autonome et contemplatif, et éviter de déranger l'équipage, particulièrement lors des départs et des arrivées au port. Les journées à bord sont principalement faites de lectures, de films, de marches sur le pont principal, d'échanges avec les autres passagers, de tours sur le pont supérieur, à la discrétion du capitaine. Il y a certes quelques activités plus exceptionnelles, comme un barbecue avec l'équipage et des soirées avec les officiers, mais en gros, dit le passager, il faut savoir s'occuper par soi-même. Malgré l'apparence industrielle, l'environnement d'un cargo est généralement très confortable, avec des chambres étonnamment grandes, de 15 mètres carrés à 25 mètres carrés. Les plus anciens navires peuvent accueillir en moyenne 3 ou 4 touristes et les plus récents une douzaine. Les passagers partagent des espaces avec l'équipage, dont une salle de repos avec téléviseur et souvent une table de ping-pong. Sur certains cargos, il y a une piscine de 2 mètres sur 2 mètres remplie d'eau de mer. L'eau est plutôt froide. Pour la nourriture, la qualité varie selon le chef, mais Sylvestre Dupont dit avoir été agréablement surpris sur les 4 cargos à bord desquels il a voyagé. Il faut s'attendre à payer de 100 à 200 $ par jour, sur des cargos. Bon. Alors, sur des voiliers, ou des yachts, ou sur des cargos, les vieilles, c'est différent.
C'est quand même abordable.
Oui, oui.
Ouais, ça peut être une aventure en même temps, mais on comprend que sur un cargo, il faut être dans sa bulle. Hein, c'est ça.
Ça peut être très long à un moment donné.
Ça peut être très long, oui, effectivement. Merci beaucoup, Roger. On vous revient après la pause avec Serge qui nous parle de détergent. Eh oui.
D'entendre Charlotte Gainsbourg qui nous chantait « Reste ».
Alors, on passe à un tout autre sujet et on parle de savon avec Serge.
Oui, le savon, c'est normal, on est lundi, jour de lavage.
Ma femme lave à tous les jours, alors je comprends pas. J'entends pas ce que tu me dis. Là.
Vous avez engagé une laveuse?
Oui.
Pardon, madame. Alors, donc... vous voyez, il y a des tests qui ont été faits, imaginez-vous donc, et pas n'importe quel test. Hein. Alors, chaque fois que vous sortez vos vêtements de la laveuse, vous êtes déçu de voir qu'ils sont encore tachés ou d'un ton plus pâle qu'avant, eh bien, votre détergent en est probablement la cause. Pour vous aider à en choisir un qui est approprié à vos besoins, on a testé 14 détergents liquides à haute efficacité. OK? Fontain, boue, herbe, sang, café, sauce tomate. On a évalué le pouvoir détachant des produits sur 14 types de taches différentes. Ensuite, afin de déterminer la capacité des détergents à préserver les couleurs, on a utilisé 22 morceaux de tissu coloré qu'on a lavé 20 fois avec chacun des détergents. Et au total, on a fait environ 400 brassées en laboratoire et toutes à l'eau froide.
Ah, OK.
Ouais. Alors, bye-bye les taches. La majorité des taches peuvent être regroupées en trois catégories. Avez-vous une tache en particulier, vous? Là, vous avez une tache ce matin, mais pas une tache. Non, non, c'est pas vrai. Bon, une tache d'origine... Il y a trois sortes de taches. Il y a les taches d'origine enzymatique, qui sont, les savez-vous, enzymatiques. Ça, moi, j'avoue que j'ai appris ça. Le chocolat, la bouette, la boue, sang et purée de carottes. Je ne sais pas si ça va ensemble, mais sang et purée de carottes se dégradent en petits fragments au contact des enzymes que contiennent les détergents et les autres composants du produit éliminent ensuite ces résidus. La plupart des détergents testés sont efficaces pour nettoyer les taches de sang et purée de carottes, mais celles de chocolat et de boue leur ont donné du fil à retordre. Ensuite, il y a les taches oxydables. Herbes, café, thé, bleuets, hey, les bleuets, c'est quelque chose. Sauce tomate, vin rouge et moutarde s'éliminent à l'aide des agents blanchissants contenus dans les détergents. Et dans l'ensemble, les produits testés ont réussi à nettoyer les taches de café et de sauce tomate, mais aucun d'entre eux n'a eu d'effet sur les taches de thé, qui sont extrêmement tenaces. Oui. Hey, on apprend des choses ce matin. Hein? Et les autres taches, les taches de gras. Huile minérale, fond de teint, le fond de teint, et gras de bœuf sont parmi les plus difficiles à nettoyer puisqu'elles repoussent l'eau. Et pour cette raison, les fabricants ajoutent à leurs produits des agents de surface qui en améliorent les performances. Et ces ingrédients possèdent une partie hydrophobe qui s'attache aux graisses et une partie hydrophile qui se mêle à l'eau. C'est quelque chose. Hein? On a l'air de rien comme ça, mais quand on fait un lavage, il s'en passe des choses dans notre laveuse. En se combinant à la fois au gras et à l'eau, ces agents chimiques arrivent à dissoudre les taches graisseuses. Les taches de ce type sont d'ailleurs tellement coriaces qu'aucun des ingrédients n'a réussi à les éliminer complètement. Aucun. Bon. Toutefois, trois produits, et je ne vous dirai pas lesquels. Oh oui, je vous l'ai dit.
Oui.
Alors, toutefois, trois produits, prenez ça en note, là. Tide, Gain et Kirkland Signature, Costco, là, ont fait un peu de mieux que les autres. Un peu mieux, pas, mais un peu de mieux. Voulez-vous préserver les couleurs maintenant?
Ah, oui.
Hein? Mm-hmm. Au fil des ans, les nombreuses analyses de nos collègues de l'International Consumer Research and Testing ont prouvé que les détergents liquides préservent mieux les couleurs que les produits en poudre. Néanmoins, il y a de grandes différences d'une marque à l'autre. Les deux détergents écologiques recommandés, qui arrivent en tête de liste d'ailleurs, que je vais vous donner tantôt, BioVert et Attitude, réussissent ce test haut la main, tout comme les produits Arctic Power et Woo Light, ce dernier promettant d'ailleurs dans ses publicités des vêtements qui conservent leur apparence neuve plus longtemps qu'avec ses concurrents. Donc c'est vrai. Et si cet aspect est plus important pour vous que le pouvoir détachant plutôt, choisissez un de ces quatre produits. Votre petite robe noire, le chandail orange brûlé de votre fille et le pantalon marine de votre conjoint pâliront beaucoup moins vite qu'avec les détergents Gain, Kirkland, Signature et Tide que j'ai mentionnés tantôt, qui ont tous échoué au test de préservation des couleurs. Alors, attention à vos marques, sortez votre crayon.
Ouais.
BioVert, en tête de liste. Il revient à Vincennes Labrassé. Mm-hmm. C'est un éco-logo, BioVert. Les taches de gras, par exemple, non. Pas bon. Pour les taches d'origine enzymatique, c'est un plus. C'est-à-dire, un plus, ça veut dire que c'est bon. Les taches oxydables, c'est bon. Et puis, la préservation des couleurs, c'est 2+, ça veut dire que c'est très bon. Donc, le bio vert, et il a une note globale de 75%. Okay? Le Attitude, qui est un éco-logo aussi, ils sont en tête de liste, c'est liquide, okay? Un détergent liquide. Eh bien, lui aussi, c'est pareil, il est bon, okay? Sauf pas pour les taches de gras. Pour les taches de gras, arrive en troisième position le Kirkland Nature, ouais, de chez Costco. Alors lui, ça va, il est bon. Les taches d'origine enzymatique, il est très bon. Et les taches oxydables, il est bon. Et pour la préservation des couleurs, on oublie ça. OK? Et il arrive troisième. Et moi, j'utilise... Lequel utilisez-vous, vous?
J'utilise celui qui est moins cher.
le grade value, Adsen a brassé, soit peut-être celui-là. Alors, écoutez, lui, franchement, on n'en parle pas. votre chandail, pas cher, je remarque mais... que votre chandail est gris ce matin.
Oui, mon chandail est alors, gris voilà. Ce matin. Il était peut-être une tache, je ne sais pas.
Avant, il était quelle couleur avant?
Il était blanc.
voilà. Alors moi, j'utilise, imaginez-vous, donc, je suis très déçu, là, le biodégradable, la parisienne. Au lieu d'avoir 75%, bon, là, il y a juste 65%. Pour la préservation des couleurs, on oublie ça. Bon, ça va, c'est passable pour les taches oxydables. Bref, je vais changer.
Il y a Franceline qui nous a pas dit que...
Et moi, j'utilise Tide.
Tide, bon, ben écoutez, Tide, c'est le plus cher. Bien.
Ah, c'est le plus cher?
Eh ben, vous êtes riche. Exactement. Alors, c'est pas
ça
pareil.
Doit être ça. Ça doit être ça.
Et puis, le taille de le Turbo Clean, là, 25 cents de la brassée. C'est le plus cher. Non, le plus cher, c'est Sunlight à 40 cents. Les autres, c'est 20 cents ou 15 cents. OK?
Bon, alors.
Alors, voilà. Alors, moi, ce que je vous propose ce matin, là, c'est le Kirkland Signature. Puis après ça, il parle du Arctic Power, détergent liquide. OK?
Quand même pas si mal. Bon, c'est bien.
Puis, voilà.
Ben, très intéressant, Serge. On va refaire nos emplettes cette semaine, sûrement, pour aller chercher les meilleurs détergents. Mais on vous revient dans la deuxième demi-heure avec des sujets tout aussi intéressants.
Maria Salama par Dalida.
Merci beaucoup. Et on poursuit cette émission, deuxième demi-heure, avec Franceline comme deuxième sujet.
Oui, mon deuxième sujet s'intitule « Les jeunes contre les vieux ». Hein, c'est un thème récurrent qu'on entend autant dans les médias que dans les soupers de famille. Et puis là, à l'occasion des fêtes, on va souvent faire des commentaires sur cette différence de génération. Je vous rappelle, parce que je vais le citer dans le texte, que les baby-boomers sont les gens nés entre 46 et 64, suivis de la génération X de personnes nées entre 65 et 80. Et ensuite, les milléniaux dont on parlera beaucoup dans le texte, qui sont nés donc entre 80 et 2000, c'est-à-dire qu'ils ont actuellement entre 37 et 17 ans. Uh-huh. Alors voilà. Alors les baby-boomers auraient tout eu, hein, c'est ce qu'on dit, et les milléniaux voudraient tout avoir. Entre les deux, les X appartiendraient à une génération sacrifiée et endettée. Les jeunes qui blâment les vieux qui se découragent des jeunes, c'est une histoire vieille comme le monde. Il y a en effet, il y a 2500 ans, Platon fustigeait la paresse et la luxure de la jeunesse, et dans la Bible, Job, autant que Jésus, se révolte contre les vieux qui ont détourné la religion à leur profit en oubliant le message de Dieu. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui ce clivage entre les générations. Au Québec, les baby-boomers jouent très souvent le rôle de bouc émissaire pour nos problèmes actuels. On reconnaît leur rôle dans l'édification de l'État social et dans la Révolution tranquille, tout en les accusant d'avoir largement profité de la prospérité des années 1960 et 70 et d'avoir, par la suite, détruit le filet social, de léguer un Québec endetté et de bénéficier de retraites dorées. De leur côté, les milléniaux seraient plus ou moins des têtes brûlées, peu fiables en emploi et n'épargneraient pas. Le portrait réel est passablement plus complexe, bien évidemment. Ces deux générations comptent pour chacune environ le quart de la population québécoise, selon la définition précise qu'on en donne. Autrement dit, il y a environ 25% de la population qui entre ou est sur le point d'entrer de plein pied dans la vie professionnelle active, donc les 18-35 ans, et un autre 25%, les 55-70 ans, qui est sur le point d'en sortir ou est à la retraite. Il va dans le cours des choses que les plus jeunes bénéficient d'un revenu moindre et sans dette, aux études d'abord, puis au début de leur vie professionnelle. À l'opposé, il est également normal que les plus vieux voient leurs revenus diminuer à la retraite, mais aussi leur endettement, une fois la maison payée et les enfants partis. Cela dit, il existe dans chacune des deux générations de très grandes disparités économiques. Par exemple, la moitié des milléniaux ont un faible revenu, moins de 15 000 $ par année. Rien de surprenant. Par contre, les plus vieux ne sont pas tous de riches rentiers. Près d'un baby-boomer sur 5 est dans la même situation et environ la moitié d'entre eux gagnent moins de 35 000 $ par année. Il s'agit ici de revenus bruts totaux. À l'inverse, 10% des Canadiens gagnant plus de 100 000 $ par année ont moins de 35 ans. Les jeunes seraient-ils moins économes aujourd'hui que par le passé? Non, c'est plutôt l'inverse. Des années 1970 au début des années 2000, les 28-34 ans possédaient un actif en moyenne assez stable autour de 60 000 $. En 2012, le portrait change radicalement. Leur actif explose à plus de 90 000 $. C'est donné en dollars constants, c'est-à-dire comparables en tenant compte de l'inflation. Les milléniaux épargnent donc davantage et s'endettent largement moins que les générations précédentes, dernier boomer inclus. Faire le procès d'une génération masque ainsi les profondes disparités socio-économiques en leur sein. En ce sens, les conflits intergénérationnels détournent le regard de problèmes et de luttes beaucoup plus fondamentaux. Les inégalités et la précarité économique de nos semblables devraient nous préoccuper bien davantage que ces pseudo-divisions. Il y a des riches et des puissants parmi les baby-boomers, autant que parmi les milléniaux ou les X. Le fait que cette richesse et cette puissance se passent de génération en génération, voilà ce qu'il ne faudrait pas oublier. Mmh. Et c'est écrit donc par Yannick Marcil, qui est économiste indépendant et qui a écrit ce texte, cette réflexion, dans le journal L'Itinéraire du 15 novembre 2017.
Quand même très intéressant,
ouais,
ouais. Ouais, comme article. Merci beaucoup, Franceline. Au retour, ben moi, je vous parle des fameux écouteurs pour les jeunes. Hein. Est-ce que ça nuit à l'audition? On va le voir tout de suite après. Alors, de retour, et moi, j'ai retrouvé un article dans la presse et qui se titre « Jeune et dur d'oreille ». C'est un article du blog Santé de la presse que j'ai retiré du 9 décembre dernier. Et c'est un papier de Isabelle Morin et Alexandre Vigneault. Et on dit que les adolescents et les jeunes adultes ne sont pas toujours tendres envers leurs oreilles. Le saviez-vous? Entendront-ils moins bien que leurs parents au même âge? Eh bien, c'est fort possible. L'ouïe perdue ne reviendra pas. Et ça, c'est dit dans cet article. La musique, c'est ma vie, lance Alexandrine Morin. L'étudiante de 17 ans écoute de la musique partout, tout le temps. Et souvent, très, très fort. Elle dit que si elle ne l'entend pas, c'est comme goûter un plat quand tu es malade. Tu goûtes à moitié. C'est quand même assez drôle comme sujet. Un peu partout en Occident, des spécialistes constatent en effet des pertes auditives causées par le bruit chez les adolescents. 15% en Scandinavie, 12% en France et 10% en Allemagne. Aux États-Unis, une étude datant de 2010 qui comparait des données de 1994 et de 2006 estimait déjà à 19,5% le nombre d'ados souffrant d'une telle déficience auditive et signalait que cela correspondait à une hausse de 31% en une douzaine d'années. L'étude publiée dans le Journal of American Medical concluait alors à une détérioration généralisée de l'audition dans ce groupe d'âge. Les dangers liés au bruit dans les milieux de travail sont connus depuis des années. Ce qu'on ne savait pas, c'est que ça peut aussi arriver dans les loisirs, explique Alexis Pinsonneau, citant notamment les entraînements physiques sur des musiques à haut volume. Les gens ne sont pas assez sensibilisés, alors ils n'adoptent pas de comportement sécuritaire. Il y a 2 ans, l'Organisation mondiale de la santé prévenait déjà qu'en menant leur vie quotidienne en faisant ce qu'ils aiment, de plus en plus de jeunes se mettent en situation de risque de déficience auditive. Ce que les jeunes aiment maintenant, entre autres les cafés, les bars, sortir danser dans les discothèques, assister à des concerts et écouter de la musique sur un appareil mobile, des lieux ou des activités où le niveau sonore peut être très, très élevé. Or, il suffit de s'exposer à un niveau sonore de plus de 100 décibels pendant 15 minutes pour subir des dommages auditifs. On ne voit pas les répercussions dans l'immédiat, mais quelques années plus tard, naturellement, si on est exposé à un son fort de façon quotidienne, plusieurs fois par semaine pendant quelques heures, des dommages se créent au niveau de l'oreille interne. Ce qui inquiète particulièrement les spécialistes, ce sont les habitudes d'écoute de musique sur des appareils mobiles pendant des périodes prolongées et à un volume sonore élevé. Plusieurs études ont d'ailleurs rapporté que les jeunes avaient des comportements musicaux très, très à risque. L'une d'elles, réalisée auprès de jeunes de 14 à 17 ans par l'Institut de santé publique du Québec, avançait que 42 % des jeunes participants écoutaient de la musique à un volume plus élevé que la norme canadienne permise en milieu de travail. Plus fort que ce que règlement permet dans les usines, en fait. L'étude soulignait que 85 % de ces jeunes jugeaient eux-mêmes que leur musique était parfois, souvent ou toujours trop forte. Par ailleurs, seulement 18 % des parents étaient conscients que le volume était trop élevé pour l'ouïe de leur enfant, comme quoi il est difficile pour un observateur d'évaluer le risque auquel s'expose une tiestre personne qui utilise des écouteurs. Et là, tous les types d'écouteurs sont susceptibles de générer des niveaux sonores potentiellement dommageables. Benoît Jutras, professeur au département d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal, recommande néanmoins ceux qui couvrent l'oreille, comme on utilise ici en studio, parce qu'ils atténuent les bruits ambiants. Les pires, ce sont les fameux écouteurs à boutons. Le bruit est moins coupé avec ce type d'écouteurs-là et on a tendance à augmenter le volume, encore plus dans un milieu bruyant. Les pertes auditives, on dit aussi dans cet article, causées par le bruit sont dues à la destruction des cellules ciliées situées dans l'oreille interne. Ces dernières transmettent les signaux électriques que le cerveau interprète comme des sons. Imaginez un petit peu des brins de gazon. Si on marche dessus, ils se relèvent. Mais si on les piétine, ils resteront écrasés. Alors c'est à peu près le même exemple. L'audiologiste croit que bien des gens, jeunes et moins jeunes, en sont conscients. Pas au point d'agir pour protéger leur ouïe. Par contre, c'est comme de savoir que la cigarette n'est pas bonne pour la santé et fumer pareil. Changer des comportements, c'est souvent très, très difficile. En 2009, la Commission européenne a établi que le volume des appareils d'écoute ne doit pas excéder 100 décibels au Canada. Aucune loi n'en régit la puissance sonore. La presse a tenté de connaître celle des iPhones, entre autres. Apple n'a pas été en mesure de fournir une réponse officielle, mais ses représentants ont avancé que, sur les modèles de génération 6, donc Apple, les téléphones ou plus récents, le volume maximal oscille possiblement entre 103 et 110 décibels, ce qui n'est pas bon. Ces données recoupent celles de Santé Canada, qui évalue entre 60 et 110 décibels la puissance sonore maximale des appareils stéréo personnels. Et malheureusement, les appareils n'indiquent pas le degré de décibels au moment de l'écoute. Ce serait une grande aide pour améliorer ces habitudes. Et je vais vous donner quelques exemples du nombre de décibels qui peuvent causer des problèmes ou non. Et on dit, à quel niveau de bruit s'expose-t-on au quotidien? Quand on parle en conversation à voix basse, tout simplement, c'est au niveau de 30 décibels. Si on écoute dans la cuisine, entre autres, quand le réfrigérateur démarre, c'est entre 40 et 60 décibels, comme une conversation normale. 70 et 80 décibels, c'est un aspirateur, une circulation urbaine. Quand on circule l'été, la fenêtre baissée, c'est entre 70 et 80. 85 décibels, c'est un seuil de risque. Alors, il est là.
95 décibels, conditionnement physique avec musique, donc quand on s'entraîne, les fameux petits boutons dans les oreilles. 90 à 100 décibels, la tondeuse, le baladeur au volume maximal. Et 110 décibels quand on va voir des concerts rock, naturellement, ou même quand on va voir l'orchestre symphonique. Hein? C'est quand même assez intéressant. Donc, on disait, je vous rappelle qu'on disait dans l'article, en haut de 100 décibels, ça commence à être dangereux pour à peu près 15 minutes de temps. Donc, c'est un article que vous allez retrouver sur le blog de la presse daté du 9 décembre. C'est un papier d'Isabelle Morin et d'Alexandre Vigneault. On vous revient tout de suite après cette pause avec Serge. Alors Serge, après avoir parlé d'audition, ben on peut peut-être parler en fait en lien avec ton premier article.
Hein, les détergents.
Des détergents, oui. On peut parler maintenant d'huile d'olive.
Oui, c'est comment nettoyer l'huile d'olive. Hein? Non. Non. Avant de la nettoyer, on va la déguster.
Oui.
Je ne sais pas si vous êtes amateur d'huile d'olive, mais je pense que la plupart des gens aiment beaucoup l'olive et l'huile d'olive. Mm-hmm. Et puis ça fait, comme je disais, ça peut faire un très beau cadeau de Noël. Ouais. Hein? Mm-hmm. Alors, il y a un article qui a été écrit ici dans la revue Protégez-vous par Catherine Crépeau. Distinguer le vrai du faux. Les huiles d'olive et les vinaigres balsamiques se sont multipliés au cours des dernières années et n'ont cessé de gagner en popularité. Et malheureusement, la qualité n'a pas toujours suivi. Okay. C'est un aliment de base de la diète méditerranéenne et l'huile d'olive est devenue synonyme de cuisine saine en raison notamment de ses avantages pour la santé cardiaque. Et au Canada, sa consommation a plus que doublé en 15 ans pour atteindre quelque 40 000 tonnes par an, soit l'équivalent de 88 184 bouteilles d'un litre. Et pendant la même période, la consommation mondiale est passée d'environ 400 millions à 3 millions de tonnes. Alors, 2 500 000, mettons, à 3 millions de tonnes. C'est beau. Malheureusement, cette hausse de la demande s'est accompagnée d'une augmentation de la fraude. Ah! Bon. Alors là, est-ce qu'on veut une vraie bonne huile d'olive? Comment on va la choisir? Alors, selon la définition du COI, les huiles d'olive vierges sont extraites du fruit de l'olivier par des procédés mécaniques ou physiques sans traitement chimique à une température maximale de 28 degrés centigrades. La pression à froid, très recherchée il y a quelques années, n'est presque plus utilisée aujourd'hui. Ah, elle a été remplacée par l'extraction à froid. Oh! Un procédé qui préserve les antioxydants de l'huile et lui donne une saveur et une odeur particulières. Un moulin écrase et malaxe les olives pour former une pâte qui est passée dans une centrifugeuse, laquelle sépare le liquide du solide puis l'huile de l'eau. C'est une technique plus efficace que la pression à froid, décrit Claudia M. Farran, propriétaire des boutiques Olive et Olive. Le mieux est de choisir une huile d'olive vierge extra qui porte une date de péremption et qui est embouteillée directement chez le producteur. Alors, si c'est le cas, vous verrez son nom sur l'étiquette, poursuit Mme Farran. On s'assure ainsi de la provenance de l'huile et dans une certaine mesure de sa qualité, puisqu'on diminue les risques de mélange, explique-t-elle. Maintenant, dites-moi, est-ce que c'est possible de trouver les bonnes huiles d'olive vierge extra en épicerie? Est-ce que vous pensez qu'on peut en trouver des bonnes en épicerie? Sûrement. D'après vous,
J'espère.
Nous espérons. Mm-hmm. Eh bien, protégez-vous à dénicher 11 valeurs sûres pour rehausser les mets. On a soumis 27 huiles d'olive vierge extra aux papilles expérimentées de 5 juges issus des domaines de l'importation d'huile d'olive, hein, de la sommellerie, de la restauration et de l'enseignement de la cuisine italienne. Alors, c'était pas n'importe qui, là. ces papilles gustatives-là. Leur mission, évaluer la flaveur. La flaveur.
La flaveur.
C'est-à-dire le goût, l'odeur et la texture des produits en s'appuyant sur leur expérience personnelle et sur les qualités d'une huile d'olive vierge extra telle que décrite par le Conseil Oléicole International, c'est le COI, ça, l'organisme responsable de définir des normes pour classer les différentes huiles d'olive. Et le test s'est déroulé à l'aveugle. Pour être qualifié de vierge extra, une huile doit notamment dégager des arômes de fruits sains et frais, de verdure ou de gazon, qui varie selon la maturité de l'olive, sa variété et son origine. C'est ce qui fait le fruité de l'huile. Une amertume bien équilibrée, c'est-à-dire ni trop marquée ni trop discrète, doit aussi être présente. Elle sera perçue vers l'arrière de la langue. Une sensation de picotement dans la bouche ou dans la gorge doit compléter l'expérience de dégustation. C'est le piquant typique d'une bonne huile d'olive. Ah, nos trois meilleurs choix de marque. Alors attention, sortez vos crayons.
Oui, oui, oui.
OK. Nous avons ici pour un format de 500 millilitres. Ça, c'est le prix pour 250 millilitres. Alors, donc, la bouteille, si elle a 500, c'est 2 fois 12. Alors, c'est 24 $. Et ça vient d'Italie. Okay. Et elle, c'est la meilleure. Et sa note globale est de 80 %. L'huile d'olive Planeta. De Val di Mazara. La deuxième huile d'olive, le même prix, Marcinase. M-A-R-C-I-N-A-S-E. Alors, si vous donnez ça en cadeau à Noël, ben, et si les gens ne la connaissent pas, vous leur direz que à l'arrière de la langue, il y a ce goût piquant. Ah, en avant de la langue, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Mais vous pourrez leur dire que des juges les ont testés.
Ah, OK.
Et pas n'importe quel
pas
juge,
n'importe qui.
Là. OK. Bon. Et la troisième huile qui est bonne, c'est la belle excuse.
Okay.
C'est cute, hein? Uh-huh. Alors, celle-là est 10 $, donc 20 $ la bouteille. Elle vient de Grèce. Et puis, je vais vous donner trois huiles qu'il ne faut pas toucher.
OK?
Qui sont en spécial régulièrement, que j'achète d'ailleurs.
OK.
Là, j'achèterai plus.
Serge, j'ai pas
quand vous ouvrez une bouteille d'huile d'olive puis que ça sent la peinture, alors là, vous pouvez être assuré que ça n'a pas le goût piquant dans l'arrière-langue. Alors, c'est la fameuse Gallo, là. Hein?
Ah.
On la voit-tu souvent en spécial, oui. Celle-là? Mais il y en a deux Gallo. Il y a la Gallo en galon, il y a la Gallo 3000, format 3000 litres, 3 $, c'est pas cher, elle, hein? Elle a 46 %, elle vient d'Italie, ça doit être fabriqué par la mafia, ça, je sais pas. Et puis, il y a la Gallo huile d'olive qui, elle a 62 %, mais celle qui n'est pas recommandable, là, c'est la Gallo, la maison Orphée et le soleil d'or.
Orphée, c'est...
Alors là, à éviter ça. OK?
Ah, quand même.
Donc, Soleil d'Or, Gallo, Maison Orphée, ils disent d'éviter ça, là, non recommandé. Puis vous en avez ici, là, Planeta, Marcinase, la belle excuse, la sonde. La sonde, le format, c'est pas cher. Elle vient d'Espagne, elle.
Ah.
3 $ pour, attendez une minute, là, le format 1000, elle est moins chère. Ça revient à 6 $ environ.
Bon, quand même abordable comme prix.
Comme 9 $ plutôt, excusez-moi. Mm-hmm. C'est bon?
Ben merci, Serge. Très gentil.
Est-ce que je vous ai mis l'eau à la, l'huile d'olive à la bouche?
Vous nous avez mis le piquant derrière l'oreille. Pas derrière l'oreille, mais derrière la
ben vous, c'est avec vos oreilles tantôt. Vous entendiez ça. Mal.
Exact. Eh bien, merci à vous trois. Très agréable encore une fois de vous avoir retrouvés. Uh-huh. On vous dit, moi, je vous retrouve le 9 janvier prochain. Et Serge, on te part quand même.
Non, moi, je reviens la semaine prochaine.
Je reviens la semaine prochaine.
Oh, sinon, après ça, je reviens le 10 avril. C'est
donc,
bon?
Vous profiterez de Serge la semaine prochaine. Merci, Franceline.
Au revoir.
Merci, Roger. On vous souhaite une excellente semaine et n'oubliez pas d'aller voir sur le site Internet. Il y a la reprise de cette émission toute la journée. Bon lundi.